Bonjour de nouveau à toutes et à tous. Alors, en principe, aujourd'hui, c'était Renato qui devait parler, qui devait prêcher. Et il vous prie de bien vouloir l'excuser. Il est de nouveau tombé malade et ne peut pas donc être actuellement avec nous. Vous pouvez penser à lui dans la prière. Je le remplace donc aujourd'hui et en l'état actuel des choses. C'est une grâce que Dieu nous accorde vraiment de pouvoir continuer à l'adorer ensemble avec les moyens qui sont les nôtres. Et je suis personnellement encouragé par votre présence connectée qui indique que dans cette situation, c'est vers Dieu que vous vous tournez résolument. Tenons bon, alors que nous allons diffuser le culte de cette manière, alors que nous allons vivre les groupes de maison à distance, alors que nous allons moins nous voir, tout cela pendant une durée indéterminée. Mais aujourd'hui, rendons grâce à Dieu, qui nous permet, à notre époque, de nous connecter à plusieurs pour lui rendre un culte. Et j'aimerais vous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons, oui, encore une fois, te rendre grâce pour la possibilité que tu nous donnes de pouvoir te rendre ce culte en ligne. Et merci pour la présence de chacun, pour tous ceux qui ont pu prendre ce temps pour suivre ce culte en direct. Que tu nous bénisses par ta parole, que vraiment tu nous instruises, que tu nous conduises dans ta volonté, dans ce que tu veux que nous fassions en cette période particulière. Oui, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est vrai. Nous l'avons chanté, nous dépendons de ta grâce. Et merci Seigneur, parce que aujourd'hui encore est un jour favorable pour ton salut. Que nous puissions être renouvelés par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme beaucoup le savent, j'ai été professeur de français et j'aime la langue française. Parfois, dans la vie courante, nous utilisons des expressions qui atténuent tellement le sens des mots. Prenez se sacrifier. Dans un sens noble du terme, c'est renoncer volontairement à quelque chose, voire à sa propre vie, dans l'intérêt d'autrui. Donc ça, c'est le sens noble du verbe se sacrifier. Mais maintenant, considérons la situation suivante. Nous sommes à table au moment du dessert. Chacun a déjà eu sa part et évidemment, il en reste une. Et très souvent, alors que les autres sont rassasiés, j'entends quelqu'un s'exclamer à propos de la dernière part: bon, d'accord, je vais me sacrifier. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est le sacrifice dans cette histoire? Dans la Bible, le thème du sacrifice est bien plus précieux, est bien plus sérieux. Dans un sens physique, il implique la mort d'une victime qui paie à la place du coupable. Je suis en train de lire le Lévitique, un des livres de l'Ancien Testament qui souligne l'importance des sacrifices. Lorsque vous lisez le Lévitique, vous visualisez ces animaux égorgés jour après jour et présentés sur l'autel. Vous apprenez avec les Israélites que le salaire du péché, c'est la mort. Que ces sacrifices sanglants étaient nécessaires pour que des hommes et des femmes pécheurs soient pardonnés. Pour que des hommes et des femmes pécheurs soient agréés par Dieu. Et pour certains péchés, aucun sacrifice n'était prévu. Le coupable devait payer par sa vie. C'est dire la gravité du péché. Dans le Nouveau Testament, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle longuement des sacrifices en les comparant au sacrifice parfait de Jésus, un sacrifice fait une fois pour toutes et qui couvre tous nos péchés. Et je vous invite à lire avec moi le dernier chapitre de cette lettre, là où l'auteur adresse ses dernières recommandations et où il parle encore de sacrifice. Le texte se trouve dans Hébreux chapitre 13 et vous l'avez sous les yeux. Je lirai dans la version du Semeur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui. Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Pour cette prédication, je vais me concentrer sur les versets 10 à 16. Et nous entendons dans l'extrait que je viens de lire plusieurs encouragements adressés à des chrétiens qui sont éprouvés, qui sont persécutés à cause de leur foi. Ce sont probablement des chrétiens d'origine juive tentés de retourner au judaïsme à cause de la persécution. Et l'auteur les exhorte ici à rester au contraire fermement attaché à Jésus et d'être au quotidien des adorateurs d'un genre nouveau. Et quand je parle de genre nouveau, c'est pour préciser que le temps où il fallait sacrifier des animaux est révolu. Désormais, c'est un autre culte qui est rendu à Dieu. Et nous allons voir ensemble ce que cela signifie pour nous concrètement. Je vous propose de nous focaliser sur trois exhortations qui nous enseignent à être ces adorateurs d'un genre nouveau, des adorateurs authentiques, disciples du Christ, comme Dieu le souhaite. La première exhortation est la suivante. Allons vers Jésus, qui s'est sacrifié pour nous. Allons vers Jésus, qui s'est sacrifié pour nous. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est central. Sa vie sur terre, sa mort, sa résurrection, son ascension, le fait qu'il soit assis à la droite du Père, son prochain retour. Tous ces éléments sont chers à notre cœur et nous les confessons sur la base de la parole de Dieu. Et je rends grâce à Dieu que dimanche après dimanche, nous continuons à proclamer que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Relisons le verset 10. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. Dans ces versets 10 à 16, l'auteur utilise le vocabulaire lié au culte. Autel, sanctuaire, sang des animaux, grand prêtre, et plus loin encore, sacrifice. Dans le monde d'aujourd'hui, tout ce que je viens de mentionner semble appartenir à une autre époque. Il n'est même pas certain que les gens aujourd'hui savent ce qu'est un autel. Et dans l'Ancien Testament, l'autel est le lieu, l'emplacement où l'on offre des sacrifices à Dieu. Que veut dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il déclare que nous avons un autel? Nous savons que depuis la venue de Jésus, nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux. Donc, nous n'avons pas besoin d'un autel. Nous apprenons dans ce verset 10 que les prêtres n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. Pourquoi? D'abord parce que l'autel dont il est question ici est celui des chrétiens. Or, les prêtres qui servent dans le temple sont attachés aux anciens rites, ceux de l'ancienne alliance, ceux de la loi de Moïse avant la venue de Jésus. Ils ne peuvent donc pas revendiquer cet autel-là qui est celui des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Et puis, deuxième raison, le verset 11 nous indique que l'auteur fait allusion, vraisemblablement, à un certain type de sacrifice et également à cette fête particulière, le Yom Kippour, le jour des expiations. Ce jour-là, les victimes sacrifiées pour le péché du peuple, n'étaient pas consommées, mais brûlées à l'extérieur du camp. Juste pour rappel, à l'époque de Moïse, après leur libération d'Égypte, là où les Israélites étaient esclaves, le peuple a passé 40 années, dans le désert. 40 années dans le désert où il a dressé son camp, là où se trouve le tabernacle, le lieu du culte. Et sortir du camp, c'était s'exposer à être impur. C'est ainsi que les corps des animaux sacrifiés pour le péché de tout le peuple étaient brûlés à l'extérieur. Et c'est là que nous comprenons le verset 12 de notre texte. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre péché. Ce verset lève le voile sur la compréhension que nous pouvons avoir de l'autel des chrétiens. L'autel renvoie au sacrifice de Jésus, mort à l'extérieur de la ville, comme les animaux brûlés hors du camp de l'époque de Moïse. Ces sacrifices du passé annonçaient le sacrifice parfait du Christ, qui a la même fonction, purifier le peuple. De cette manière, la relation entre Dieu et son peuple était rétablie. Jésus a accompli le sacrifice suffisant qui nous purifie de tous nos péchés. Nous n'avons pas un autel physique aujourd'hui, mais un autel symbolique. La mort de Jésus sur la croix est suffisante pour que nos péchés soient pardonnés. Plus besoin de sacrifices d'animaux. Et voici l'exhortation qui nous est adressée cet après-midi, au verset 13. Allons donc à lui, en sortant à l'extérieur du camp, et acceptons d'être méprisés comme lui. Car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. L'auteur de la lettre s'adresse à des chrétiens qui, comme je l'ai évoqué, étaient tentés à cette époque de retourner à leur camp, au judaïsme, afin d'éviter la persécution à cause de leur foi en Jésus. Il faut donc de nouveau encourager ces chrétiens à s'attacher à Jésus, leur sauveur, même si cela signifie devoir supporter le mépris des autres. Oui, il y a un prix à payer lorsqu'il s'agit de marcher à la suite de Jésus. Non seulement ces chrétiens étaient rejetés par les autorités juives de l'époque, mais également peut-être par des membres de leur famille restés dans le judaïsme. C'est un prix à payer dont les chrétiens sont conscients. Ils sont méprisés comme leur maître. Jésus avait dit à ses disciples, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Nous lisons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 20. Néanmoins, l'auteur de l'Épître ajoute un autre argument ici pour encourager ses destinataires. Les chrétiens de l'époque pouvaient tenir parce qu'ils avaient une ferme espérance. Regardez le verset 14. Ils savaient qu'ils n'étaient que des pèlerins sur cette terre. Leur cité n'est pas la ville terrestre de Jérusalem, là où se trouve le temple. Mais leur espoir est d'habiter un jour dans la Jérusalem céleste, là où se trouve Dieu. Et telle est aussi l'espérance de ceux qui placent aujourd'hui leur confiance en Jésus. Et telle est notre espérance pour nous qui nous confions jour après jour en Jésus. Nous ne craignons pas le mépris des autres. Nous ne voulons pas nous attacher à ce que propose ce monde, mais nous tournons nos regards vers la cité à venir, là où nous avons déjà notre place. Actuellement, nous ne vivons pas une forme de persécution aiguë, même si elle n'est pas absente en Occident. C'est vrai que dans notre situation actuelle, confinés dans nos maisons, nous vivons une expérience similaire à celle de nombreux frères et sœurs en Christ qui ne peuvent pas se voir à cause de la persécution. Nous pouvons ressentir, mais dans une moindre mesure, ce que représente l'isolement, l'absence de communion régulière avec les autres croyants. Je pense aussi cet après-midi à certains d'entre vous qui vivent avec des membres de votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour avoir vécu cette situation, j'imagine que c'est loin d'être facile tous les jours. Et cet après-midi, cette exhortation d'aller vers Jésus en étant méprisé comme lui n'est pas facile à entendre pour vous. Et peut-être qu'en cette période, vous allez être amené à rester plus souvent à la maison, notamment le dimanche. Peut-être que vous serez encore plus exposé au mépris de vos proches qui ne comprennent pas votre attachement à Jésus. Tenez bon, frères et sœurs, là où vous êtes, restez attachés à Jésus. Venez à lui dans la prière. Dès le matin, puisez votre force et votre joie en lui. Appréciez ce temps que vous avez peut-être en plus maintenant pour l'écouter dans sa parole. Lisez ces passages de l'Évangile où vous pouvez contempler encore une fois l'œuvre de la croix. Jésus s'est sacrifié pour nous. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons une véritable relation avec Dieu. Tenez bon aussi, frères et sœurs, parce que votre cité n'est pas ici-bas. Vous avez une espérance. Vous savez qu'un jour vous serez avec Jésus dans le royaume de son Père, de notre Père. C'est cette espérance qui nous permet de tenir jour après jour. Et chaque jour, nous rapproche de cette réalité. Et bien sûr, nous prions que vos proches connaissent le Seigneur et qu'ils aient cette même espérance. La tentation pour les chrétiens de l'époque était de retourner au judaïsme. Notre tentation durant cette période pourrait être de nous laisser aller, de moins entretenir notre relation avec Dieu parce que c'est coûteux, parce qu'on court le risque du mépris. Mes amis, restons attachés à Dieu de tout notre cœur. Jésus et Jésus seul est celui qui peut nous sauver. Mais il faut aller vers lui pour bénéficier de son œuvre à la croix. Et si Jésus est mort pour purifier les hommes, crois-tu qu'il a fait pour toi? Crois-tu que c'est le seul moyen pour te réconcilier avec Dieu? Alors que nous faisons des efforts pour rester attachés à Jésus, nous contemplons celui qui a donné sa vie en sacrifice. Parce que son sacrifice est suffisant. Nous n'avons pas d'animaux à sacrifier, heureusement. Par contre, ce n'est pas pour autant que le culte rendu à Dieu cesse. Bien au contraire, les chrétiens sont les premiers concernés par les exhortations qui suivent. Et j'en viens à ma deuxième exhortation. Offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange. Offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange. Dans les versets 15 et 16, il est encore question de sacrifices, mais qui sont d'une autre nature pour le chrétien. L'auteur utilise ces termes pour rappeler que le culte rendu à Dieu continue sous la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Et c'est en cela que nous sommes des adorateurs d'un genre nouveau. Regardez avec moi le verset 15. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Tout ce que nous venons de dire à propos de notre attachement nécessaire à Jésus concerne aussi notre louange à Dieu. Dans notre situation actuelle, nous n'allons plus à l'Église, mais nous sommes l'Église. Et en tant qu'Église, nous adorons Dieu, mais aucun de nos chants, aucune de nos prières ne saurait faire plaisir à Dieu sans l'œuvre parfaite de Jésus. Sans sa mort, sans sa résurrection. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est celui qui a permis la réconciliation avec Dieu. Il est celui qui a permis que Dieu porte sur nous un regard favorable. En nous donnant l'existence, quel était le projet de Dieu ? La réponse, que les hommes et les femmes l'adorent, célèbrent son nom, le reconnaissent comme Dieu. Le péché nous a éloignés de cette raison d'être, mais par Jésus, quand nous confessons que Dieu est grand et majestueux, nous faisons ce pour quoi nous avons été créés. Et nous retrouvons cette idée également chez l'apôtre Pierre. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. « Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. » Il est question ici de sacrifices spirituels. Mais Dieu ne peut que les accepter si nous avons été purifiés par Jésus, si nous avons accepté le sacrifice de Jésus pour nous. Et ces sacrifices ne sont pas physiques avec des animaux, mais ils sont spirituels. Nous adorons Dieu en esprit, avec son esprit et en vérité. Encore une fois, le verset 15, « Par Jésus, offrons donc en tout temps. » Rendre un culte à Dieu ne se limite pas au dimanche. Et loin de nous l'idée d'être ce qu'on appelle des chrétiens du dimanche, qui adorent Dieu un jour par semaine et qui vivent une toute autre vie les six autres jours. Non, ce n'est pas pour une telle vie que Jésus a donné la sienne. Au contraire, louons le Seigneur chaque jour, en tout temps, en toutes circonstances, continuellement. Pourquoi ? Parce que continuellement, Dieu est digne de louange. Il n'y a pas un jour de la semaine où Dieu ne mériterait pas d'être adoré, célébré, honoré. Dans un contexte de persécution, les chrétiens du premier siècle devaient persévérer. Le culte ne devait pas s'arrêter. De même, aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte qui nous empêche de nous rassembler. Mais avec les moyens du bord, nous pouvons offrir et vivre un culte qui est adressé à notre Dieu, et cela jour après jour. Le culte ne s'arrête pas le dimanche. Il se prolonge, je l'espère, dans la semaine. Mais quel est alors le contenu de notre culte quotidien ? Que devons-nous faire durant le temps que nous dédions à Dieu ? Eh bien, d'après le verset 15, rien de moins qu'un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Vous entendez ? Encore le mot sacrifice. Voilà ce que nous sommes appelés à offrir à Dieu constamment. Cela peut s'exprimer de différentes manières, par des chants, comme nous l'avons fait, par des prières, comme nous l'avons fait, par toutes sortes d'expressions artistiques, peut-être même par exemple par l'écriture de poèmes, pour ceux qui sont poètes parmi vous. En somme, tout ce qui découle de notre cœur, de notre amour pour Dieu. Nous pouvons lui dire par exemple, « Merci mon Dieu pour le salut que tu offres par grâce aux hommes. Merci d'avoir envoyé Jésus pour mourir à ma place. » Ou encore, « Merci Seigneur parce que je peux te voir à l'œuvre dans ma vie et dans celle des autres. C'est la preuve que tu es vivant et que tu t'intéresses à nous. » Et si jamais nous manquons d'inspiration, Dieu a tout prévu dans sa parole. Le livre des psaumes est un recueil inspirant, un recueil de prières et de louanges que nous pouvons nous approprier. Et bien d'autres prières dans la Bible sont également inspirantes. Dieu nous a donné les mots pour que nous puissions le louer. Il nous a donné les mots déjà pour que nous puissions le louer. Ne nous privons pas d'exprimer à Dieu combien nous l'aimons, et pas seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Oui, grâce à Jésus qui nous a entièrement purifiés, nous avons accès constamment auprès de Dieu le Père, et nous pouvons l'adorer en tout temps. Rappelons-nous, il n'y a pas un jour de la semaine où Dieu est moins digne de nos louanges. Les enfants de Dieu sont appelés naturellement à honorer leur Père céleste. Quel père ne voudrait-il pas être aimé et respecté par ses enfants ? À combien plus forte raison, Dieu est-il bien plus digne d'être adoré par ses enfants ? Que cette semaine soit une semaine où tu puisses dédier du temps à exprimer ton amour pour Dieu à travers des sacrifices de louange. Nous avons vu jusque-là que le texte biblique nous encourage à deux actions. Aller vers Jésus pour s'attacher à lui et à lui seul, malgré le prix à payer. Et la deuxième action, louer Dieu en tout temps par Jésus. Néanmoins, l'auteur nous met en garde contre un oubli. Et c'est l'objet de la troisième exhortation. N'oublions pas les sacrifices de bienfaisance et d'entraide. N'oublions pas les sacrifices de bienfaisance et d'entraide. Le culte rendu à Dieu ne se limite pas à des chants ou des prières de louange. Cela pourrait très vite devenir un rituel si nous ne faisions que ça. D'autres religions ont aussi des prières et des chants. Mais le chrétien manifeste d'un côté son amour pour Dieu, notamment à travers la louange, et de l'autre, son amour pour les autres, pour son prochain. Regardez le verset 16. « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » L'auteur souligne l'idée que les actes d'amour envers les autres sont des sacrifices offerts à Dieu et qui lui plaisent. Les actes d'amour envers les autres sont des sacrifices offerts à Dieu et qui lui plaisent. Et en effet, par nos actes, nous reflétons Dieu et nous témoignons aux autres du Seigneur que nous voulons imiter. Par notre bonté envers les autres, nous montrons que Dieu est bon. Et la présence du mot « sacrifice » indique que le culte rendu à Dieu s'étend à tout ce que nous faisons au quotidien, à l'égard des autres. Selon l'enseignement de Dieu, dans la Bible, l'amour du prochain résume la loi. Et je lirai pour cela un passage dans Galates chapitre 5, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui écrit « Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est en obéissant à ses commandements que nous témoignons aussi à Dieu de notre amour pour lui. Aimer Dieu, aimer notre prochain, c'est déjà tout un programme pour la vie. Mais attention, ce ne sont pas nos actions altruistes envers les autres qui nous font gagner la faveur de Dieu. C'est dans la mesure où nous avons placé notre confiance en son Fils Jésus-Christ que Dieu prend plaisir à ce que nous faisons, pas le contraire. C'est parce que nous avons placé notre confiance, notre espérance en Jésus-Christ que Dieu prend plaisir à ce que nous faisons. Comme un père qui aime l'obéissance de ses enfants. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà une exhortation encore pour cette semaine. La bienfaisance désigne l'acte de faire du bien aux autres. Et ce qui est traduit ici par le mot « entraide » désigne au sens large la communion fraternelle et dans un sens plus spécifique, l'entraide financière, notamment le fait de partager une partie de ses biens pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et c'est vrai, dans notre texte, ces exhortations visent d'abord la solidarité au sein de la communauté chrétienne. D'autres textes dans la Bible nous encouragent à avoir une même attitude à l'égard de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu et dans notre situation. Dans ce contexte où nous sommes à distance les uns des autres, comment pouvons-nous manifester au sein de l'Église dispersée de Saint-Maur la bienfaisance et l'entraide ? Pour les chrétiens de l'époque qui connaissaient la persécution, l'entraide et l'encouragement étaient nécessaires pour tenir bon. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour maintenir notre communion malgré la distance? Comment pouvons-nous faire du bien à nos frères et sœurs alors que nous ne les voyons pas ou peu, ou que nous ne les voyons qu'à travers un écran? Et dans notre contexte d'aujourd'hui, nous devons réfléchir à toutes ces questions. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Nous ne savons pas combien de temps la situation va durer, mais c'est sans doute une occasion incroyable de nous aimer comme jamais. Pensons les uns aux autres. Prions les uns avec les autres, par téléphone, par Zoom, par Skype ou encore d'autres moyens. Un tel a-t-il besoin de quelque chose en particulier? Un tel sollicite-t-il notre aide? Soyons là. Tel autre se sent découragé? Appelons-le. Ne négligeons pas de faire du bien, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Dieu prend plaisir lorsque ses enfants s'aiment d'un amour sincère et qui s'exprime par des actes concrets. Pensons à demander des nouvelles à nos frères et sœurs qui vivent seuls dans l'appartement et qui peuvent réellement éprouver de la solitude. Pensons à celles et ceux que j'ai mentionnés un peu plus tôt et qui vivent avec leurs proches qui ne connaissent pas le Seigneur. Eux aussi ont besoin de soutien. Dans les circonstances qui sont les nôtres, notre foi et notre amour sont mises à l'épreuve. Alors, la question, c'est ces prochains jours, que vas-tu faire pour ton prochain? Je reviens à mon histoire de gâteau. Se sacrifier pour une part de gâteau, ce n'est pas en réalité se dévouer pour la manger, mais au contraire, c'est être prêt à la laisser aux autres. Mais en fait, ce n'est pas le plus important dans l'histoire. L'essentiel cet après-midi, c'est de revenir encore et toujours à la croix de Jésus-Christ, là où il a vraiment tout accompli. Dieu nous interpelle cet après-midi et dans notre contexte actuel à rester attachés à Jésus et à être des adorateurs dévoués au moins à travers ces trois exhortations. Aller vers lui en étant prêt à être méprisé. Offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et puis aimer notre prochain, en particulier dans l'Église que nous formons. Avec la croix, tout prend sens dans notre vie. Et nos sacrifices en tant qu'adorateurs ne peuvent pas servir à nous sauver ou à nous réconcilier avec Dieu. Au contraire, ces sacrifices que nous offrons désormais, elles révèlent notre profonde gratitude pour ce que Jésus a fait en notre faveur. Allons à la rencontre de Jésus. Oui, il est mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus est vivant aujourd'hui pour continuer à être notre médiateur. Sans cela, aucun d'entre nous ne saurait plaire à Dieu. Alors, renonçons à offrir des sacrifices de louange, à donner de notre temps pour les autres, sans nous attacher d'abord à Jésus. Nous sommes des adorateurs d'un genre nouveau. Nous sommes les croyants de la nouvelle alliance et nous rendons constamment un culte au Dieu à qui revient toute la gloire, depuis toujours, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. J'aimerais simplement vous inviter à prier avec moi. Seigneur, merci parce que c'est ta parole qui encourage. À travers ce que nous venons de lire, à travers ce que les uns et les autres ont entendu, c'est toi, Seigneur, qui nous parle. C'est toi, Seigneur, qui veux nous encourager cet après-midi tout particulièrement, parce que tu connais notre situation et tu sais précisément quoi nous dire. Merci, Seigneur, parce que, oui, Jésus-Christ a offert le sacrifice pleinement suffisant pour nous. Ce sacrifice fait une fois pour toutes, pour tous nos péchés, et qui nous permet désormais de pouvoir nous tenir devant toi, notre Père. Merci parce que nous pouvons continuer à t'offrir constamment, jour après jour, un culte qui t'est agréable grâce à Jésus. Merci parce que nous pouvons le faire de diverses manières, et peut-être plus particulièrement aujourd'hui encore, nous allons devoir faire preuve de créativité, mais nous voulons continuer à t'adorer. Le culte continue malgré les circonstances, parce que tu en es digne et tu en es digne tous les jours. Merci aussi, Seigneur, parce que tu nous rappelles dans ta parole que, oui, nous ne devons pas oublier l'entraide, la bienfaisance, surtout dans des circonstances comme les nôtres, parce que ce sont des sacrifices pour lesquels tu prends plaisir. Donne-nous aussi d'être inventifs à ce niveau-là, que durant la semaine et durant les semaines à venir, tu nous accordes des idées qui pourront être mises en place pour pouvoir nous soutenir les uns et les autres dans cette période, afin que nous puissions continuer à vivre cette communion malgré la distance, malgré peut-être parfois les difficultés que les uns et les autres rencontrent. Que tu nous encourages, Seigneur, par ton esprit. Que vraiment, Seigneur, dans cette période, nous puissions être fortifiés dans notre foi. Que les uns et les autres puissent continuer à marcher avec toi fidèlement et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.